On va attendre après, peut-être après Pâques pour continuer finalement l'étude aux Philippiens. On est rendu au chapitre 2. Donc, je vais répondre à une question ou à une réflexion qu'on s'est faite mercredi concernant la parole de Dieu. J'ai dit que si, que pendant 14 ans, j'ai répété et répété que ce qui était important, c'est de lire, de méditer les Écritures, de mémoriser les Écritures, que c'était la force du chrétien. Et on va regarder ensemble, j'ai dit que j'en parlerai, je vous remettrai 6 questions pour ceux qui sont intéressés à vraiment se structurer, à établir une certaine discipline pour que lorsqu'on lit les Écritures, on puisse les retenir, on puisse les assimiler, on puisse aussi surtout les mettre en pratique. Et j'aimerais avec vous ce matin regarder le psaume 119. Alors, il est possible que si vous n'arrivez pas à comprendre, à retenir les enseignements de la parole de Dieu, à lui obéir, je peux vous dire sans crainte de me tromper que vous n'êtes pas un chrétien victorieux ce matin, parce qu'il y a des promesses dans la parole qui nous disent qu'en Christ, on a la victoire, et on a la victoire sur le péché, il l'a déjà remporté pour nous, on a la victoire sur le monde, on a la victoire sur le malin, et on a la victoire sur le péché. Et ce matin, nous allons regarder comment nous pouvons approfondir notre connaissance de la parole de Dieu, comment nous pouvons faire en sorte que la Bible devienne une source de vie en nous et comment elle peut devenir un feu dévorant dans nos cœurs, comme dit Jérémie au chapitre 5, verset 14. Une grande partie de ce que nous allons voir ce matin se trouve dans le psaume 119. Alors, vous allez être bénis, ceux qui ont amené leur Bible ce matin. Vous n'aurez pas à vous promener d'un endroit à l'autre. On va surtout regarder le psaume 119 et les autres références que je donnerai. Eh bien, si vous n'avez pas le temps de les noter, vous allez sur le site Internet de l'Église et vous pouvez recopier le message. Vous avez le message et vous pouvez qui est écrit, qui est parlé, et vous pouvez recopier finalement les références. Ce que les gens ont besoin de connaître aujourd'hui, c'est de connaître la vérité, parce que c'est la connaissance de la vérité qui transforme les vies. Jésus a dit, la vérité vous affranchira, la vérité vous rendra libre. Et c'est vrai que la connaissance constitue une puissance pour celui qui la possède. Nous avons besoin de connaître la parole de Dieu pour avoir la puissance spirituelle nécessaire pour affronter notre quotidien. Frères et sœurs, nous avons besoin d'être formés, d'être stimulés, d'être dirigés par la parole de Dieu. Et pourtant, pour beaucoup, la Bible demeure un livre secret, un livre mystérieux. Certains peuvent citer quelques mots de la Bible, mais ils ne le comprennent vraiment pas. Il n'y a aucun raccourci, aucune méthode facile, ni aucun procédé magique que nous pouvons utiliser pour comprendre la parole de Dieu. Et si quelqu'un veut vraiment connaître Dieu, cela peut se faire vraiment dans la joie et avec passion. Et dimanche, c'est mercredi, eh bien, j'ai rappelé que moi, j'ai pas été élevé dans l'Église et que jusqu'à l'âge de 36 ans, j'étais ignorant du contenu de la parole de Dieu. Dieu a placé un appel sur ma vie, mais je dois dire qu'à partir du premier jour où j'ai accepté le Seigneur Jésus, eh bien, on m'a donné une Bible et j'ai commencé à la lire parce qu'on m'a dit, écoute, si tu veux progresser dans ta vie chrétienne, si tu veux être vainqueur du péché dans ta vie, tu dois lire et méditer les Écritures. Et là, j'ai ma français courant ici qui est tout délabré, mais je ne suis pas capable de m'en séparer parce que, pourquoi? À cause des passages que j'ai soulignés qui dans cette Bible, qui me rappellent finalement les moments où j'en étais rendu dans ma vie et les victoires que j'ai remportées aussi dans ma vie chrétienne. Finalement, vos Bibles, ce que vous soulignez, c'est souvent l'empreinte, c'est souvent le reflet de ce que vous avez vécu à différentes périodes de votre vie. Et il est bon d'avoir un stylo, de souligner quand on lit, quand on médite les Écritures. Nous regarderons aujourd'hui comment nous pouvons comprendre la parole de Dieu. Le psaume 119 est le psaume le plus long dans la Bible. Il se divise en 22 sections et chaque section correspond à une lettre de l'alphabet hébreu. Donc, je ne rentrerai pas dans les détails. Je ne suis pas convaincu que ça va stimuler votre foi. Mais le contenu de ce psaume nous dévoile plusieurs choses importantes concernant la parole de Dieu. En fait, ce psaume, il y a 176 versets et il y en a 100 qui traitent de la parole de Dieu afin de nous aider à comprendre les Saintes Écritures. Prions. Seigneur notre Dieu, nous voulons te rendre grâce. Te rendre grâce parce que dans le passé, Seigneur, tu t'es révélé. Tu t'es révélé à des hommes. Tu t'es révélé à des prophètes. Tu t'es révélé aussi, Seigneur, à travers Jésus-Christ. Et aujourd'hui, Seigneur, cette révélation que tu nous as donnée, que tu as donnée dans le passé, eh bien, Seigneur, elle est contenue dans ta parole, dans les Saintes Écritures. Tu as permis qu'on mette par écrit Seigneur, ce que tu avais dit, ce que tu avais annoncé, et aussi de nous faire connaître une partie de ce qui nous attend dans l'avenir. Seigneur, ce matin, que nous puissions réaliser tous ensemble ici, dans ce lieu, la richesse, les trésors de ta parole. Combien, Seigneur, nous pouvons nous enrichir à plonger nos regards dans la parole, parce que tu nous as dit, le ciel et la terre passeront, mais ma parole durera éternellement. Seigneur, que nous puissions monter devant ton trône de grâce un jour, avec, Seigneur, une partie du trésor que tu nous as laissé. Seigneur, ta parole en nous. C'est au nom de Jésus que je te prie. Amen. J'aimerais maintenant vous partager trois choses ce matin dans lesquelles nous retrouverons des sous-points à travers ces trois choses. Et si vous mettez ces trois choses en pratique, je peux vous promettre que la Bible sera comme un feu dévorant dans votre cœur, dans votre esprit et dans votre vie. Trois choses. La première chose, c'est que vous devez apprécier les vertus de la parole de Dieu. Vous devez apprécier les vertus de la parole de Dieu. Si vous n'appréciez pas les vertus de la parole de Dieu, frères et sœurs, vous n'aurez aucun désir d'apprendre et de la connaître. Beaucoup de gens ont une certaine idée de ce qu'est la parole de Dieu, mais ne comprennent pas sa grande valeur et les effets bénéfiques qu'elle peut produire dans leur vie. Vous devez apprécier la parole de Dieu pour être en mesure d'apprécier les vertus de la parole de Dieu. Pourquoi devez-vous apprécier la parole de Dieu? Parce que c'est un livre qui ne tient pas compte du temps. Regardez le verset 89, pour ceux qui ont leur Bible. Pour toujours, ô Éternel, ta parole subsiste dans les cieux. En d'autres mots, le psalmiste est en train de dire ici, la parole de Dieu existera toujours, elle a sa place éternelle dans le ciel. C'est-à-dire que la parole de Dieu, frères et sœurs, ce n'est pas le livre du mois, ce n'est pas le best-seller de l'année, ce n'est pas le best-seller de la semaine, c'est le livre qui a sa place éternelle dans le ciel. Il ne change pas, il n'évolue pas, c'est ce que le psalmiste nous dit au psaume 89. La parole, elle est éternelle. Lisons ensemble le psaume 152, le verset 152. Depuis longtemps, je sais que tes préceptes, c'est-à-dire tes ordonnances, que tu les as établies. Frères et sœurs, pour combien de temps? Pour toujours, éternellement. Dieu dit, c'est fait, c'est réglé à tout jamais. J'ai écrit mes commandements et ils existeront à tout jamais. Nous sommes convaincus que ce que nous avons dans la parole, depuis le début jusqu'à la fin, il n'y a rien qui va changer, pas un iota. Dieu est fidèle. Dieu ne se renie pas. Et il nous dit pour toujours, j'ai écrit ce qu'il y a là-dedans, ça va demeurer toujours. Lisons le psaume, le verset 160. Le fondement de ta parole est la vérité. En d'autres mots, ma parole est la vérité depuis le commencement. Le fondement de ma parole, c'est la vérité. Chers amis, les autres livres dans le monde apparaissent et disparaissent, mais la parole, elle est là pour rester. Elle a sa place éternelle dans le ciel. Des milliers d'années se sont écoulées depuis que la Bible a été écrite. Des empires sont apparus, puis sont ensuite tombés et disparus. Les civilisations ont évolué et continuent à évoluer encore et encore. La science repousse les frontières de la connaissance, et pourtant, la Bible subsiste malgré tout. Il y a eu des empereurs qui ont décrété l'extermination de la Bible à travers l'histoire de l'homme. Il y a eu beaucoup d'athées qui se sont moqués, qui continuent à se moquer de la Bible. Il y a des agnostiques qui ricanent cyniquement sur la Bible. Il y a des libéraux qui renient, qui nient les miracles qui sont contenus dans la Bible. Il y a beaucoup de matérialistes qui ignorent simplement la Bible. Il y a les radicaux qui crachent sur la Bible. Il y a les sectes qui déforment la parole de Dieu. Mais la Bible subsiste malgré toutes ces attaques. Une des façons qui me permet de savoir que la Bible est la parole de Dieu, c'est qu'elle agit dans le cœur des gens et qu'elle transforme leur vie. Amen. Oui. On peut lire un roman, c'est ce qu'on parle le mercredi. Le roman, il peut nous permettre de rêver. Je parlais des bouquins Harlequin et tout ça, et surtout pour les dames, ça nous permet de rêver. Mais au bout de 1 semaine, 2 semaines, le rêve s'en va. On retombe sur nos 2 pieds. Et finalement, l'effet que ça nous avait donné au moment où on l'a lu, ça disparaît. Mais la parole de Dieu, l'effet qu'elle produit, si on laisse Dieu travailler dans notre cœur, si on dispose notre cœur à recevoir cette parole, elle produit un effet incroyable. Et même si on n'est pas disposé à la recevoir, Isaïe dit que toute parole que quelqu'un entend, toute parole qu'il entend dans ses oreilles, elle ne retourne pas au Seigneur en vain, elle a produit un effet. L'effet peut être inconnu pour l'instant, mais il produit aussi un effet. Pierre dit dans 1 Pierre, chapitre 1, verset 25, « La parole du Seigneur demeure. » Est-ce que quelqu'un se rappelle le mot suivant? « La parole du Seigneur demeure éternellement. » Et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. Jésus a dit, « Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. » Frères et sœurs, la Bible est éternelle, la Bible est complète, elle est indestructible. Nous parlons ici des vertus de la parole de Dieu que nous devons apprécier. C'est un livre qui ne tient pas compte du temps, il est éternel. C'est un livre qui dit la vérité. Lisez le verset 142. Ta justice est une justice éternelle et ta loi est la vérité. En d'autres mots, frères et sœurs, le droit que Dieu a établi est éternel et sa loi, elle est immuable. Les hommes changent, dépendant souvent des courants de pensée, dépendant aussi souvent de leur humeur. Mais Dieu ne change pas, il demeure le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Notre Dieu ne change pas. Si on dit que Dieu est amour aujourd'hui, on ne peut pas dire que dans 100 ans, dans 1000 ans, Dieu sera méchant. Dieu est amour, il n'y a point de mal en Dieu. Et on peut s'appuyer sur lui, parce qu'on peut s'appuyer sur sa parole, parce que sa parole est la vérité. Verset 151. Tu es proche au Éternel et tous tes commandements sont la vérité. En d'autres mots, toi, Seigneur, tu es proche de moi, on peut se fier à tes commandements. Regardez le verset 160. Le fondement de la parole est la vérité. Pilate a demandé à Jésus, qu'est-ce que la vérité? Et Jésus dit en parlant à son Père, Jean chapitre 17, verset 17, « Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. » Qu'est-ce que Jésus est en train de dire ici en d'autres mots? « Fais qu'il soit entièrement à toi par le moyen de la vérité. La parole est ta parole est la vérité. » Frères et sœurs, dans un monde qui a perdu tout repère concernant la vérité, vous pouvez dire sans hésiter que la Bible dit vrai et qu'elle est la vérité. Chers amis, ce que dit la Bible est vrai. Et si vous cherchez la vérité, vous allez la trouver dans la parole. Pourquoi en est-il ainsi? Tournez avec moi dans 2 Timothée, chapitre 3, verset 16. Pour ceux qui ont leur Bible. 2 Timothée, chapitre 3, verset 16. Toute écriture est inspirée de Dieu. Toute écriture est inspirée de Dieu. Ça veut dire quoi? Que si je crois que Dieu est l'auteur de la parole, je n'ai pas à remettre aucun mot qui se trouve dans sa parole, parce que toute écriture est inspirée de Dieu. Le mot « inspiration » est utilisé une seule fois dans toutes les écritures. Mais c'est un mot qui a une grande portée. Bon, je vous cite pas, c'est très très rare que je cite des mots grecs, mais là je vais vous le dire parce que je pense que vous allez saisir ce qu'il veut dire. Le mot grec pour inspiration, c'est théopneutos. Il signifie littéralement inspiré de Dieu. Pneu. Théopneustos, voilà. C'est pas facile à dire en français, encore moins en québécois. Voilà. Mais c'est un mot qui a une grande portée. Il signifie littéralement « inspiré de Dieu ». Le mot « théo » signifie « Dieu », mais le « psustos » signifie « le souffle de Dieu ». Si nous devions le prononcer comme il s'écrit, eh bien, on pourrait dire comme un pneumatique, un pneu soufflé d'air ou pneumonie qui est en relation avec le souffle. Et lorsque Paul utilise ce mot, eh bien, il fait référence au souffle de Dieu. Qu'est-ce que vous entendez présentement? Vous entendez le souffle de Jacques. Je parle et mes poumons sont remplis d'air. Mon diaphragme, ma cage thoracique oblige les poumons à expulser de l'air. L'air monte dans ma gorge et sur mon larynx et amène mes cordes vocales à vibrer et ma langue, mes dents et mes lèvres émettent un son. Et ce que vous entendez maintenant, c'est le souffle de Jacques. Il n'y a pas le même effet que le souffle de Dieu, mais c'est le souffle de Jacques que vous entendez. Ce que Paul dit maintenant, c'est que toute écriture provient du souffle de Dieu. Elle est insufflée par Dieu. Elle est inspirée par Dieu. Rappelez-vous ce que Jésus dit dans Matthieu chapitre 4, verset 4. L'homme ne vivra pas de pain seulement. Écoutez maintenant la suite. Mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Il est en train de parler de la Bible et il dit que chaque mot provient de la bouche de Dieu. Ce n'est pas seulement le fait que Dieu a insufflé sa parole dans les Écritures, mais que cette parole est sortie de sa bouche et qu'il utilise des êtres humains pour la mettre par écrit, dont Isaïe, dont Jérémie, dont Matthieu, Paul, Marc et beaucoup d'autres. Cependant, ces hommes furent la voix de Dieu, comme si Dieu parlait. 2 Pierre 1:21, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé, c'est guidé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Pierre dit « par le Saint-Esprit ». Par conséquent, la Bible est la vérité, parce que le Dieu de vérité ne pouvait pas se tromper lorsqu'il a parlé. Si vous lisez dans l'Ancien Testament, vous allez trouver des phrases comme « la parole du Seigneur », « ainsi parle l'Éternel », ou « Dieu a parlé », ou « l'Éternel dit ». Vous trouverez 3808 fois dans la Bible ces expressions « Dieu dit » ou « la parole de l'Éternel me fut adressée » ou encore « car ainsi parle le Seigneur ». Frères et sœurs, si la Bible n'est pas la parole de Dieu, c'est le pire tissu de mensonge à avoir circulé sur toute la terre depuis le début. Non, la Bible est vraiment la parole de Dieu. Chers amis, ce que je suis en train de vous dire ici, c'est que la Bible ne tient pas compte du temps, elle est un livre éternel. Deuxièmement, c'est que la Bible dit la vérité. Par conséquent, la Bible est un livre précieux qui contient des trésors de révélation. Il est écrit au verset 72 pour ceux qui ont leur Bible. « Mieux vaut pour moi la loi de ta bouche que 1000 objets d'or et d'argent. Mieux vaut pour moi la loi de ta bouche que 1000 objets d'or et d'argent. » J'espère que c'est vrai pour vous aujourd'hui, car c'est vrai pour moi et Dieu m'en est témoin ce matin. Si vous recouvriez de ce côté-ci l'estrade, à partir du plancher jusqu'au plafond, avec de l'or, avec de l'argent, des rubis, des diamants, des obligations et des actions, et que de l'autre côté, vous aviez la parole de Dieu, je choisirais sans hésiter. Je n'aurais même pas besoin de réfléchir, je prendrais la parole de Dieu. Les richesses du monde sont appelées à disparaître. La parole de Dieu est appelée à durer éternellement. Lisez le verset 103. « Que tes paroles sont douces à mon palais, plus que le miel dans ma bouche. Que tes paroles sont douces à mon palais, plus que le miel dans ma bouche. » Lisez maintenant le verset 127. C'est pourquoi j'aime tes commandements plus que l'or et que l'or fin. C'est un livre contenant des trésors inestimables. Frères et sœurs, avez-vous découvert ces trésors inestimables? C'est un livre qui contient des trésors inestimables. Quand on découvre les trésors qui sont contenus dans la parole de Dieu, les faux trésors que le monde nous offre deviennent finalement, on a un mot en québécois, mais on dit fauné. Mon frère américain va comprendre, fauné, c'est du faux, c'est du toc. C'est du toc finalement qu'on nous présente dans le monde. S'il n'y a rien de valeur dans le monde. La valeur qu'il y a dans le monde, c'est la valeur, les choses qui sont de la valeur dans le monde, c'est des choses que le monde veut bien lui donner de la valeur. Vous savez qu'à une certaine époque, le sel valait plus cher que l'argent. On payait les gens pour leurs travaux avec du sel. D'où le mot français salaire. L'argent ne valait rien à l'époque. On crachait sur l'argent. Pourquoi? Parce que le monde avait donné une valeur incroyable au sel. Mais l'argent, le monde ne savait pas quoi faire avec l'argent. Les valeurs changent en fonction des époques dans le monde. Mais la parole de Dieu, les trésors qui sont contenus dans la parole de Dieu, ils sont inépuisables, ils sont indestructibles. Les chrétiens qui nous ont précédés, les héros de la foi, se sont reposés sur la parole de Dieu lorsqu'ils marchaient à travers les eaux glacées de la rivière de la mort. Et les martyrs qui sont morts pour avoir rendu témoignage de Jésus-Christ ont tenu leur Bible sur leur poitrine alors que les flammes du bûcher commençaient à toucher leurs pieds. Chers amis, combien de les chrétiens de l'Église primitive aimaient la parole de Dieu? Ils ne l'ont jamais remise en question et ils débattaient très peu sur son contenu. Ils la prêchaient, ils la proclamaient et ils l'enseignaient. Ils étaient versés dans les Écritures et ils se laissaient transformer par la parole de Dieu. Ils l'aimaient, ils vivaient de la parole de Dieu. Ils la mettaient en pratique, ils lui faisaient confiance, ils lui obéissaient et cela provoquait des réveils, cela amenait des conversions. Savez-vous pourquoi la Bible est un trésor? Vous savez depuis longtemps, je sais que Jésus m'aime, car la Bible me le dit. Vous n'aurez jamais une vie chrétienne victorieuse si vous n'aimez pas ce livre, frères et sœurs. Et là, je m'adresse aux nouveaux. Vous commencez votre vie chrétienne, il n'y a pas de secret, il n'y a pas de formule magique. Ce n'est pas parce que vous avez levé la main, ce n'est pas parce que vous avez fait une prière, ce n'est pas parce que vous êtes avancé en avant que ça va nécessairement bouleverser votre vie. Si vous ne lisez pas les Écritures, vous allez voir que votre nature charnelle va reprendre rapidement le dessus. Et vous serez sans défense pour lutter contre toutes les tentations que le malin vient placer devant votre figure. Il y a des péchés grossiers que j'ai évité de tomber parce que le Saint-Esprit me rappelait la parole que j'avais méditée. Il n'y a pas de secret. On est sans défense si on ne prend pas le temps de méditer les Écritures. C'est un trésor que Dieu a mis à notre disposition. Frères et sœurs, supposons que vous appreniez qu'il y a un trésor enterré dans votre jardin. Vous vous rendriez rapidement chez le quincaillier acheter une pelle si vous n'en avez pas. Bien-aimés, je vous ai dit que la Bible est un trésor, que c'est un livre éternel et que c'est un livre qui dit la vérité. C'est un livre qui a une valeur inestimable et qui contient un trésor de vérité. C'est pourquoi la première chose, c'est que vous devez apprécier les vertus de la parole de Dieu. Parce que si vous ne le faites pas, vous ne désirez pas la comprendre. Voici maintenant une deuxième chose. Non seulement vous devez apprécier les vertus de la parole de Dieu, mais vous devez assimiler la vitalité qui se trouve dans la parole de Dieu. J'ai choisi le mot « vitalité » parce qu'il signifie « vivant », parce que la Bible est un livre vivant. L'auteur de l'Épître aux Hébreux écrit « La parole de Dieu, elle est vivante et efficace ». Et le mot « vivant » est un mot qui a donné en français le mot « énergie ». La Bible, elle est vivante et elle donne de l'énergie, de la force. Pensez aux boissons énergisantes, Red Bull, et toute la suite qui a imité Red Bull. Pourquoi les jeunes prennent du Red Bull au début des examens? C'est pas un pack de bière, c'est un pack de Red Bull. Pourquoi? Ça donne de l'énergie. C'est ce qu'ils disent. Pourquoi tu bois du Red Bull? Tu sais que c'est mauvais. Il y a des études qui ont été faites, il y a deux semaines, une jeune fille qui a bu quelques Red Bull d'affilée, qui est morte. Tombée dans le coma, qui est morte. T'as beau leur dire, non, ça me donne du pep, ça me donne de l'énergie. Faut que je tienne le coup de mes examens. Mais la parole de Dieu, frères et sœurs, elle est vivante, elle est efficace, elle est énergisante. Vous êtes tombés, vous êtes pas capable de vous relever, eh bien, vous faites des efforts, vous lisez la parole, le Saint-Esprit vous conduit, et il y a une parole pour vous relever. Ça, c'est le miracle de la parole. Ça, c'est les trésors qui se trouvent dans la parole. Dans Jean chapitre 6, verset 63, Jésus s'adresse à des non-croyants, et il leur dit ainsi qu'à ses disciples, « Les paroles que je vous ai dites, écoutez bien la suite, sont esprit et vie. » Lire la Bible est une question de vie de mort. Elle stimule votre vie. Elle vous donne l'énergie dont vous avez besoin pour continuer à marcher avec Dieu. Voilà pourquoi je dis que non seulement vous devez l'apprécier, mais vous devez l'assimiler. Vous ne vous contentez pas, frères et sœurs, bon, peut-être pas les frères, mais chères sœurs, vous ne vous contentez pas de seulement lire un livre de cuisine. Vous mangez le mets que vous avez fait. Si vous ne l'assimilez pas. Mes amis. C'est des mots bien trop longs pour un Québécois, ça. Peu importe que vous appréciez sa présentation, quel bien ce mets vous apportera-t-il? Comment assimiler maintenant la parole de Dieu? Premièrement, priez pour que Dieu vous éclaire. Verset 12, psaume 119. « Béni sois-tu, ô Éternel. » Et écoutez la suite. « Enseigne-moi tes statuts. » Avez-vous déjà fait cette prière? Avez-vous déjà dit, « Seigneur Dieu, sois mon professeur. » Priez et demandez à Dieu de vous enseigner. Lorsque vous priez, qu'est-ce qui va arriver? Premièrement, vos yeux vont s'ouvrir. Verset 18 du chapitre 119. Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. C'est pas moi qui vais les ouvrir. C'est Dieu, Seigneur, sois mon professeur, enseigne-moi et ouvre mes yeux pour que je contemple finalement les merveilles de ta loi. Il y a des écailles sur vos yeux jusqu'à ce que Dieu les enlève, afin que vous puissiez lire ce livre. Vous pouvez avoir une vision de 20 sur 20, mais Dieu doit ouvrir vos yeux pour que vous puissiez contempler les merveilleuses choses qui se trouvent dans sa loi. Vous rappelez-vous ce qui s'est passé après la résurrection de Jésus dans Luc chapitre 24? Jésus marchait avec deux disciples sur la route d'Emmaüs. Il est écrit qu'ils commençaient à parler de l'Ancien Testament, ils parlèrent de la loi et qu'ils parlèrent des prophètes. Et alors, voici ce qui est écrit au verset 45. Il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. Seigneur, je vais plonger mon regard dans ta parole. Seigneur, ce matin, je me lève, je vais plonger mon regard dans ta parole. Sois mon professeur, Seigneur. Enseigne-moi, Seigneur, parce que c'est ta parole. Et Seigneur, ouvre mon esprit pour que je puisse saisir ce que tu as à dire à ton serviteur ce matin. Ne voudriez-vous pas que Dieu fasse cela pour vous, frères et sœurs? Demandez-lui. Je peux vous certifier que lorsque vous priez que Dieu ouvre vos yeux s'ouvriront. Parce que Dieu répond aux prières de ses enfants. Et Dieu ne veut surtout pas laisser ses enfants dans l'ignorance. Demandez à Dieu de vous ouvrir vos yeux lorsque vous plongez vos regards dans la parole. Demandez à Dieu qu'il ouvre votre esprit. Et vous allez voir que Dieu n'attendra pas 3 semaines et 1 mois pour vous répondre. Il va vous parler tout de suite. Il va vous répondre tout de suite. Deuxièmement, votre cœur sera touché. Vos yeux seront ouverts. Votre cœur sera touché. Lisez le verset 36 du psaume 119. Incline mon cœur vers tes préceptes et non vers le gain. Si vous ne ressentez aucun désir à la parole de Dieu, à lire la parole de Dieu, pourquoi ne dites-vous pas, « Ô Dieu, incline mon cœur vers tes préceptes, dispose mon cœur, ouvre mes yeux, touche mon cœur, Seigneur. » Lorsque votre cœur est touché, lorsque votre cœur est disposé, et alors que votre esprit est éclairé, lisez le verset 73. Il vous reste à demander à Dieu de vous donner l'intelligence pour comprendre sa parole. « Tes mains m'ont créé, dit le psalmiste, elles m'ont formé. Donne-moi l'intelligence pour que j'apprenne tes commandements. Pourquoi je dois les apprendre? Parce que je dois avoir la force, la capacité de pouvoir les mettre en pratique. Combien de fois en préparant mes sermons, j'ai dû arrêter, incliner la tête et dire, « Oh Dieu, aide-moi à comprendre ce passage. Donne-moi ton intelligence. » Nous devrions prier pour que Dieu nous aide. Chers amis, lorsque nous prions, nos yeux sont ouverts, nos cœurs sont touchés, notre esprit est éclairé pour comprendre la parole de Dieu. Et nous sommes en train de parler ici comment assimiler la parole de Dieu. Premièrement, il faut prier. Deuxièmement, nous devons la méditer. Lisez le verset 15. Je médite tes ordonnances. Est-ce que vous saisissez ce point? Le psalmiste est en train de dire ici en d'autres mots, je veux réfléchir, Seigneur, à tes exigences. Lisez le verset 147. Je devance l'aurore et je crie. Et je prie. Oui, je crie. Et je prie. J'espère en tes promesses. C'est-à-dire, je me lève tôt le matin et je fais confiance à ta parole. J'attends avec espoir ce que tu me diras. Pendant que je prends un moment tranquille et que les autres membres de la famille dorment, je crie. J'espère en tes promesses. J'espère. J'ai cette espérance en moi. Lisez le verset 148. Avant la fin de la nuit, j'ouvre les yeux pour méditer ta parole. J'ai dit aux gens mercredi qu'il ne faut pas m'appeler entre 3 heures du matin et 4 heures du matin. Je ne sais pas pourquoi, c'est le temps où Dieu me réveille et où Dieu me parle, où je suis vraiment disposé à louer, à adorer le Seigneur, à prier le Seigneur et à me rappeler. Le Seigneur me rappelle des paroles que j'ai méditées dans les Écritures. Et à un moment donné, je me sentais complexé. Parce que je me disais, hey, ça n'a pas de sens, je suis donc bien paresseux, je suis couché chez le côté, puis là, je regarde l'horloge, je me dis, oh, ça fait déjà une demi-heure que je suis avec le Seigneur, il faudrait bien que je dorme un peu, hein, je suis fatigué, demain matin, je vais avoir de la difficulté à me lever. Mais je me dis, pourquoi je ne fais pas ça à genoux, pourquoi je ne fais pas ça debout? Ben, vous pouvez en parler à ma femme, moi, si je me mets à genoux le soir avant de m'endormir, à genoux au pied du lit, on a déjà fait l'expérience, pendant que ma femme priait, moi, je me suis à un moment donné, elle a entendu des ronflements. Moi, c'est le soir, c'est mortel pour moi de prier. Moi, c'est le matin. Mon temps avec le Seigneur, c'est vraiment le matin. Mais le Seigneur me réveille la nuit à 3-4 heures du matin pour me préparer justement à prendre un temps dans sa parole quand je vais me lever. Et finalement, quand vous lisez la parole, il y a des gens qui priaient debout, il y a des gens qui priaient à genoux, il y a sûrement des gens aussi qui priaient couchés parce qu'il n'y avait pas le choix ou parce que c'était une position favorable pour eux. Avant la fin de la nuit, j'ouvre les yeux pour méditer ta parole. Vous saisissez que cela demande du temps. Si vous devez vous lever tôt le matin, faites-le. Et si vous devez aller dormir une heure plus tard le soir, faites-le, afin que vous puissiez finalement méditer la parole de Dieu. Et lorsque vous êtes assis là, dans votre chambre, après avoir prié, prenez un stylo, prenez un crayon, puis méditez la parole de Dieu. Chers amis, je peux vous dire que lire ma Bible avec un stylo près de moi, eh bien, c'est la meilleure chose qui me soit arrivée. Est-ce que vous le faites? Si vous ne le faites pas, est-ce que vous savez ce que cela veut dire? C'est que vous ne vous attendez pas à recevoir grand-chose de Dieu. Si vous vous attendiez à recevoir quelque chose de Dieu, vous seriez prêt à le noter quelque part et à le souligner le passage. Vous vous dites, « Ah, je sais, je vais m'en souvenir. J'espère pour vous. » Quelqu'un a dit, « La plus mauvaise qualité d'encre vaut encore mieux que la meilleure des mémoires. » Notez-le sur une feuille de papier et ou dans votre ordi. Lorsque vous ouvrez la Bible, vous priez, ensuite vous méditez et vous vous préparez à ce que Dieu vous parle à travers sa parole. Lorsque vous lisez la Bible, utilisez votre bon sens, ne sautez pas au milieu d'un chapitre ou quelque part au milieu d'un livre. Si vous n'avez pas de plan de lecture, vous n'aurez aucun agencement et vous ne trouverez aucun sens dans ce que vous lisez dans votre lecture, à travers votre lecture. Je vais vous donner 6 questions que vous devez vous poser lorsque vous lisez la Bible. Ceux qui ont un stylo, notez-le. Sinon, allez sur le site Internet, comme j'ai dit au début, cette semaine, et faites-en un copier-coller. Premièrement, vous lisez un passage. Et là, avant de fermer, c'est facile de lire un passage, de lire un chapitre. Moi, en tant que chrétien, pas en tant que pasteur, mais en tant que chrétien, moi, je lis 4 chapitres par jour. 2 dans l'Ancien, 2 dans le Nouveau. Mais c'est de noter qui est important. Je lis un texte. Première question que je me pose, y a-t-il une promesse à m'approprier dans ce passage? Deuxième question, y a-t-il un enseignement à retenir dans ce passage? Qu'est-ce que Dieu veut me dire dans ce passage? Genèse chapitre 1, y a-t-il un enseignement à retirer dans ce passage? Dieu est le Créateur de toutes choses. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Alors, je lis chapitre 1. Dieu est le Créateur de toutes choses. Ça, c'est l'enseignement que Dieu me donne. Dans un premier temps, dans un premier regard. Quand je vais relire chapitre 1, il y a sûrement d'autres choses qui vont sortir. Mais je le note. Dans mon ordinateur, c'est marqué « Méditation avec passage ». Et là, je marque les passages. Et là, je pose ces 6 questions. Première question, y a-t-il une promesse à m'approprier dans ce passage? Deuxièmement, y a-t-il un enseignement à retenir dans ce passage? Troisièmement, y a-t-il une bénédiction à recevoir dans ce passage? Quelle est la bénédiction que Dieu veut pour moi dans ce passage? Quatrièmement, y a-t-il un ordre donné par le Seigneur pour lui obéir dans ce passage? Y a-t-il quelque chose que Dieu me demande d'obéir dans ce passage? Cinquièmement, y a-t-il un péché à éviter? Sixièmement, y a-t-il une nouvelle pensée à saisir dans ce passage qui vont me permettre de sortir grandi de la méditation que je viens de faire? Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Y a-t-il une nouvelle pensée à saisir dans ce passage? Si Dieu a créé toute chose, il est supérieur à toute chose. Il est plus grand que toute chose. Et la pensée que le Seigneur m'a donnée dans ce passage, c'est: tu es une poussière, Jacques. Tu es une poussière. Et dans l'univers, personne ne te voit. Tu es un grain de poussière dans l'univers et pourtant mon regard est toujours fixé sur toi, du début jusqu'à la fin. Un enseignement du Seigneur dans Genèse chapitre 1, il a créé l'homme à son image, on a vu ça mercredi, et à sa ressemblance, la différence entre les deux, à son image et à sa ressemblance. Est-ce que vous devez préparer une leçon pour l'école du dimanche? Prenez n'importe quel passage dans la parole de Dieu. Lisez-le attentivement et posez-vous ces 6 questions. Je peux vous assurer que vous avez votre leçon. Simplement, vous posez ces 6 questions dans la parole de Dieu Vous avez prié, vous avez dit, « Oh Dieu, ouvre mes yeux. » Vous avez dit, « Seigneur, touche mon cœur. » Vous avez dit, « Seigneur, donne-moi ton intelligence. » Et puis, vous avez lu la parole de Dieu. Vous l'avez médité. Et vous avez pris le temps de réfléchir sur ce que vous avez lu. Vous avez un stylo et vous avez écrit des choses sur du papier. Vous avez relu, c'est maintenant clair pour vous, et vous l'avez mis par écrit. Vous avez prié, vous l'avez assimilé. Vous savez alors ce qui est bon pour vous. Premièrement, vous devez prier. Deuxièmement, vous devez méditer. Et troisièmement, vous devez la conserver dans votre cœur. Lisez le verset 11. Psaume 119. Ouf, on va essayer de se dépêcher. Je serre ta parole dans mon cœur, dit le psalmier. Je serre ta parole dans mon cœur. Pourquoi? Regardez, il donne la réponse. Afin de ne pas pécher contre toi. Il nous donne la réponse. Pourquoi je dois conserver cette parole dans mon cœur? Pourquoi je dois la mémoriser? Pourquoi je dois faire mienne cette parole? Afin de ne pas pécher contre le Seigneur. Il nous donne la parole. Il nous donne la réponse. Je pourrais bien lire le passage. Je dis, mais Seigneur, pourquoi tu as écrit ça? Mais Seigneur dit, écoute, continue à lire la fin du verset. Afin que tu ne pèches pas contre moi. Serre ta parole, serre ma parole contre toi. Serre ma parole contre toi, fais-la rentrer. Laisse rien passer entre ma parole et toi. Garde-la, ça va t'empêcher de pécher contre moi. Verset 16. Je fais mes délices de tes statuts, je n'ouvre point ta parole. Cela signifie que vous la conservez dans votre cœur, vous l'emprisonnez dans votre cœur. Vous pouvez vous rappeler beaucoup. Plus que ce que vous pouvez penser. Et là, j'ai pas le temps d'entrer là-dessus, frères et sœurs. Mais on sous-estime notre capacité de retenir les choses. Il y a combien de personnes ce matin qui sont venues à l'église en conduisant eux-mêmes leur voiture? Levez votre main. Il y a combien de personnes qui sont venues à l'église en se faisant conduire par quelqu'un? Levez votre main. Bon, ce matin, il est indéniable qu'il y en a plus qui ont conduit, qui ont été conduits. Supposons que la personne qui conduisait la voiture ne pouvait pas se souvenir quelle pédale était l'accélérateur et quelle pédale était le frein. Nous serions beaucoup moins nombreux ce matin. Nous serions beaucoup moins nombreux ce matin, frères et sœurs. Nous fonctionnons par la mémoire et la mémoire vient avec la concentration. La mémoire vient avec la motivation et la mémoire vient avec la pratique. Je n'ai pas besoin à chaque fois de me rappeler quand j'arrive à un coin de rue, si tu es la gauche ou la droite. Parce que si je ne m'en souviens pas, il n'y a plus personne qui va vouloir m'assurer. La mémoire, je suis concentré. Je sais que la pédale de freinage, elle est où? Ouais, voilà. Quelle merveille Dieu nous a donné lorsqu'il nous a donné un esprit. Vous ne pouvez méditer la parole à moins qu'elle soit serrée dans votre cœur. Votre cœur est comme un jardin. Et frères et sœurs, moi j'ai une mémoire de courte durée. Moi je m'enrage après moi-même parce que je médite un passage, je l'apprends par cœur, et si 5 heures après vous me demandez ce que j'ai appris par cœur, je ne m'en souviens pas. Et qu'est-ce que je fais? Bien, je m'en vais sur la route avec ma Bible, là, et puis là j'écris mes versets. Et puis quand j'ai un temps mort, je répète, et puis j'apprends. J'ai une mémoire de courte durée. En plus, je ne suis pas le plus intelligent des membres ici. Je ne suis pas un simple d'esprit, mais je ne suis pas le plus intelligent. Si j'ai la capacité en Jésus-Christ de retenir les Écritures, de les mémoriser, il n'y a personne ici dans ce lieu qui est sans excuse pour ne pas les mémoriser. Il y a des gens qui peuvent vous raconter un film qu'ils ont vu il y a 3 ans, du début jusqu'à la fin. Frères et sœurs, Dieu nous a donné des capacités, c'est une question de concentration. Si lorsque je lis la parole, écoutez, je ne vois pas les vertus qui contenues dans cette parole-là, je viens lire et quand j'ai fermé, je peux vous poser la question, qu'est-ce que tu viens de lire? Ça n'a pas rentré. Il n'y a pas de secret. Il y a des gens qui trouvent qu'un culte qui dure 1h30, c'est beaucoup trop. Ils sont capables de regarder un match de foot pendant 2h30 sans se lever de leur siège. Ils vont même demander à leur femme d'amener les chips, la bière et le coca. Tout dépend de nos priorités, frères et sœurs. Tout dépend de nos priorités. Les apôtres prêchaient entre 3 heures et 5 heures. Dans l'Ancien Testament, lorsque Néhémie a réinstallé la loi, les gens sont commencés le matin jusqu'en tard dans l'après-midi. Il n'y a personne qui a bronché. Rapidement, vous devez les mettre en pratique. Versets 1 à 4. Rapidement. Aïe, aïe. Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie, qui marchent selon la loi de l'Éternel. Heureux ceux qui gardent ses préceptes, qui le cherchent de tout leur cœur, qui ne commettent point d'iniquité et qui marchent dans ses voies. Tu as prescrit tes ordonnances pour que je les observe avec soin. Il ne suffit pas de répéter les promesses de Dieu, il faut obéir à ses commandements. Voici un petit secret, frères et sœurs. Voulez-vous apprendre davantage de la parole de Dieu? Le voulez-vous? Alors obéissez à ce que vous savez. C'est tellement simple. Jésus a dit, prenez donc garde à la manière dont vous écoutez, car on donnera à celui qui a. Le riche s'enrichit. Plus vous obéissez et plus vous l'apprenez, et plus vous mettez en parole la parole de Dieu. Vous vous dites, il y a tellement de choses que je ne comprends pas dans la Bible. C'est vrai que le livre d'Apocalypse, ce n'est pas simple à comprendre. Est-ce que vous savez ce que le romancier Mark Twain a dit? Lui qui a écrit les aventures de Tom Sawyer, il a dit ceci. Ce n'est pas la partie de la Bible que je ne comprends pas qui me dérange. C'est la partie que je comprends. Alors, frères et sœurs, si vous êtes ignorants de la parole de Dieu, il n'y a absolument rien qui vous dérange. Dieu est un miroir. Dieu dit, écoute, Jacques, voici à quoi tu ressembles. Voici à ce que je veux maintenant que tu ressembles. Voici tes péchés, je veux t'en délivrer complètement à travers Jésus-Christ. Tu es perdu, je veux te sauver. Tu es une brebis perdue et je veux t'incorporer dans mon troupeau. Jésus est venu chercher et sauver ceux qui ont perdu. La conséquence du péché, c'est la mort et tous ont péché. Tu fais partie du nombre, Jacques. Et là, notre frère Ernest nous a sorti quelques versets ce matin. C'est un miroir. On est haïssable. On est tous des menteurs, nous dit la parole. On a tous péché. On n'aime pas ça, se faire entendre dire ça. On n'aime pas se faire remettre sur le piton par le Seigneur. On n'aime pas. Mais frères et sœurs, ce n'est pas la partie que vous ne savez pas de la parole qui va vous déranger. C'est celle que vous connaissez. C'est celle-là qui dérange. Parce que Dieu a pour but de nous remettre en question pour nous amener à ressembler à notre Sauveur merveilleux, la personne de Jésus-Christ. Rapidement, vous devez la proclamer. Lisez le verset 16, 13 de mes lèvres. J'énumère toutes les décisions que tu as prononcées. Verset 27, fais-moi comprendre le sens de tes ordonnances et je méditerai sur tes merveilles. Verset 46, je parlerai de ce que tu as ordonné devant les rois et je ne rougirai pas. Verset 172, ça c'est un beau verset. Que ma langue chante ta parole. On a chanté un tantôt. J'aime l'Éternel car il entend ma voix. Que ma langue chante ta parole. Le dernier point, vous regarderez ça sur le site Internet, pour ceux qui ont Internet, c'est que vous pouvez vous approprier les vertus de la parole de Dieu. Vous pouvez vous approprier les vertus de la parole de Dieu. En d'autres mots, cette connaissance, c'est cette connaissance que vous avez de la parole de Dieu qui va devenir opérationnelle dans votre vie et qui va vous transformer. Il y a des gens, je rencontre des gens, ils sont toujours abattus, ils sont toujours défaits. Oui. Et là, écoutez, ils se sentent visés, ils se sentent condamnés par les frères et sœurs en Christ. Ouais, lui, il ne me parle pas, c'est parce qu'il ne m'aime pas. Lui, il ne me parle pas d'avoir quelque chose contre moi. Ouais, vous avez des préférences dans l'Église. Ouais, vous occupez juste des nouveaux, vous laissez tomber les vieux. Ça fait combien de temps que tu as quitté tes yeux dans la parole? Parce que le Seigneur t'a dit de voir ton frère comme étant supérieur à toi. Il y a quand même un verset qui est facile à mémoriser. Hein? Il y a quand même un verset qui est facile à mémoriser dans les Écritures. Aimez-vous les uns les autres. Aime Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit, de toute ta pensée. Ça, c'est facile à mémoriser. Je donne les grandes lignes et on termine. Si vous vous appropriez les vertus de la parole de Dieu, frères et sœurs, ce sera une source de victoire pour vous. Si vous vous appropriez les vertus de la parole de Dieu, ce sera une source pour progresser. Verset 32. Si vous vous appropriez les vertus de la parole de Dieu, ce sera une source de joie pour vous. Verset 54. Si vous vous appropriez les vertus de la parole de Dieu, ce sera une source de puissance dans votre vie. Si vous vous appropriez les vertus de la parole de Dieu, ce sera une source pour vous guider sur le chemin étroit qui mène à la vie éternelle, verset 105. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. La parole de Dieu vous donnera toutes ces choses. Vous voulez être dans la joie. Vous voulez recevoir la puissance. Vous voulez remporter la victoire. Vous voulez être capable de résister aux malins. Vous voulez toutes ces choses merveilleuses pour votre vie. Vous pouvez vous approprier toutes ces choses, mais vous pouvez vous les approprier seulement qu'après les avoir assimilées. Et vous ne pouvez pas les assimiler si vous ne les appréciez pas, si vous n'appréciez pas la parole. Et je vous promets que si vous faites cela, vous verrez votre vie être transformée. Amen. J'invite simplement à courber la tête et à fermer les yeux ce matin. On va terminer avec ça.